All right, bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de métal. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, épisode avec Maxime, on va parler de, je ne sais pas si je peux appeler ça comme quantifier l'entraînement, mais toute la notion d'amener des chiffres puis de répartir soit le volume d'entraînement selon les groupes musculaires. Fait que si je fais 3 sets de dos, il faut impérativement que je fasse 3 sets de chest, mettons, parce que sinon je vais me blesser. Ou peu importe le ratio que vous utilisez, là, s'il faut que tu tires 3 fois plus que tu pousses ou... Peu importe toute cette idée-là un peu de balancer le corps, je peux-tu dire ça comme ça, balancer le corps, jusqu'à un certain point pour générer des meilleures adaptations, générer plus de gains. Fait que c'est vraiment de ça qu'on va parler sous plusieurs angles, ratio de force, répartition du volume, toutes ces belles affaires. Fait qu'avant qu'on starte, si vous aimez ça les podcasts, si vous aimez ça les podcasts, n'hésitez pas à aimer la vidéo, laisser un petit j'aime. Si jamais vous avez une question pour nous, n'importe quoi, vous voulez qu'on parle plus à tout moment, n'hésitez pas. Ça nous fait vraiment plaisir d'interagir avec vous. C'est ça qui rend ça le fun. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, s'il vous plaît, aimez. Ça nous rend un grand service. En fait, ça augmente la visibilité à Facebook. Fait que ça nous dit ça. Fait que j'espère que tout le monde qui écoute va bien. Je vois que le monde commence à embarquer. Fait qu'on va tomber direct dans le vif du sujet. On va commencer avec un petit warm-up, un petit réchauffement, parce que ça risque d'être un peu plus simple pour nous autres de comment on va tout spinner ça. Cette idée-là, Maxime, qu'il faut impérativement répartir uniformément ou pas uniformément, justement, le volume musculaire, le volume d'entraînement selon les groupes musculaires. Tu penses quoi de ça?
Ben, tu sais, je ne sais pas d'où exactement ça vient.
Ben, c'est de la bro science, c'est de la pure bro science.
Je pense qu'il y a une partie là, de l'univers du bodybuilding là, là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois symétrique. Puis la symétrie, c'est pas juste gauche-droite, c'est avant-arrière. Donc, assurer un développement uniforme de l'ensemble de tes muscles. Puis je pense qu'il y a aussi un petit mix de... il y a un risque de blessure si tu causes des déséquilibres musculaires. Ouais. Tu sais, mais moi, quand je regarde ça, tu sais, le corps, on n'est pas symétrique dans le sens qu'on n'est pas fait nécessairement pour faire la même chose avant-arrière, même sur les côtés. Tu sais, on a souvent tendance à dire qu'il faut absolument être équilibré droite-gauche, mais tu sais, on a un côté dominant. D'un point de vue de l'évolution, là, il doit y avoir une raison pourquoi on a conservé un côté dominant. Pourquoi il y a des gauchers et il y a des droitiers. T'sais, ça a une utilité, sinon ça ferait une couple de milliers d'années qu'on l'aurait perdu, ça, puis on serait tous en bidex. Mm-hmm. Il y a des utilités là-dedans. Puis je pense qu'il y a comme une quête, mais c'est ça, de dire qu'il faut absolument équilibrer tout le temps les affaires, puis on va mélanger les sciences.
Ouais.
Et c'est là que ça devient problématique. On va mélanger les mathématiques avec la physiologie de l'exercice. Fait qu'on va se dire, si tu fais 3 sets de développé couché, là, de bench, ben il va falloir que tu fasses 3 sets de dos. T'sais, logiquement, tu te dis ça fait du sens parce que je travaille mon dos pareil comme en avant. Ben, mathématiquement, ça s'équivaut. Mais biologiquement, si tu veux, c'est pas la même game, là.
Ben, tu sais, même, c'est un peu cette problème-là aussi, tu sais, on parle de mathématiquement, théoriquement, ça s'équivaut parce que je déplace 100 livres sur, à une distance de bras, je déplie mes coudes, versus je fais le même mouvement à l'inverse, je tire dans le plan frontal, on s'imagine qu'à cause que le mouvement est inversé, ben, comme le corps humain est une parfaite symétrie, genre l'un de l'autre, puis la charge de travail est forcément pareille, même si la charge que tu mets en tirage, puis la charge que tu mets en bench press, ils sont pas pareils, là. Tu tireras pas la même affaire puis tu bencheras pas autant. L'exercice est différent. On appelle la courbe de force ou la courbe de résistance de l'exercice, à savoir qu'il y a un bout où est-ce qu'il y a le plus de tension. C'est pas la même affaire, même si c'est une copie inversée, tu sais. Fait que c'est vraiment important d'amener ça. C'est pas nécessairement parce que l'exercice est opposé que le travail est forcément égal ou comparable.
Ouais, parce que c'est pas c'est pas des muscles miroirs.
Ouais, c'est ça.
Pour exécuter un exercice de développé, tu vas avoir une série de muscles qui vont travailler. Pour exécuter un exercice de traction, tu as un autre batch de muscles qui ne sont pas attachés pareil, qui ne sont pas orientés pareil, qui n'ont pas les mêmes capacités mécaniques. C'est clair que mathématiquement, tu ne peux pas traduire ça. J'ai fait 3 sets par en avant, je fais 3 sets par en arrière, je t'égale, je n'aurai pas de problème.
C'est logique, mais c'est une version overly simplistique de la chose. Là. C'est pas simple de même. Là,
ben non, tu sais. Puis ça veut pas dire parce que tu fais 10 séries de dos puis une série de chest que tu vas être déséquilibré. Tu sais, mathématiquement, il y a un déséquilibre.
Ouais.
Mais dans la réalité, dans les fonctions de l'organisme, les muscles du dos n'ont pas les mêmes fonctions, ils ne font pas faire les mêmes mouvements que les pecs, puis, etc. Fait que c'est la même chose au niveau des cuisses. Tu sais, les quads, les ischios, ils ne font pas la même job, ils n'ont pas les mêmes rôles. Mm-hmm. Tu sais, fait qu'on ne peut pas dire, ben, il faut qu'ils fassent exactement la même quantité là, de séries puis de répétitions. Tu sais, je pense que ça rassure les gens. On a l'impression de... Puis, tu sais, je vais même aller une coche plus loin. Tu vas avoir des gens qui ont tendance à être voûtés. On va dire, ah, ben, il faut que tu fasses plus de séries de dos. Fait que là, ils vont faire 3 séries de chest, ils vont faire 5 séries de dos. Sincèrement, là, j'ai fouillé un petit peu là-dessus, là, mais moi, dans la pratique, là, j'ai jamais vu personne qui a réussi à corriger sa posture en faisant genre 2 sets de dos plus que 2 sets de chest. Tu sais, je sais pas là, en physio là, s'ils ont des affaires là-dessus, là, mais moi, ce que j'ai rien trouvé sur le fait de modifier la posture avec la musculation, ouais. Là, l'effet chez des gens extrêmement malades, là, déconditionnés complètement, mais chez l'athlète, là, corriger la posture en modifiant le volume par groupe musculaire, moi, j'ai rien vu là-dessus.
Non, je suis d'accord avec toi. Je pense pas. On entend ça vraiment souvent. Puis, tu sais, j'argumenterais que ça ferait du sens d'un point de vue capacité fonctionnelle, là, dans le sens que, tu sais, la majorité des gens passent du temps, tout le temps en position voûtée en avant, mais on parle pas de quelqu'un qui a une simili-pathologie, là. Tu sais, c'est comme pas la même game vraiment là-dessus. Mais, tu sais, probablement qu'il y a du monde qui bénéficierait un peu plus à passer plus de temps drette, là. Tu sais, mais ça, c'est comme. As-tu besoin de mettre un chiffre là-dessus? As-tu besoin de dire, genre, il faut que tu fasses 75% plus de ci, plus de ça? C'est là, ben, c'est le jump, moi, qui me gosse, honnêtement. Ben,
sur quoi tu te bases? Ouais, c'est sur quoi tu te bases? Tu dis que c'est, pourquoi 75%? Pourquoi pas 77%?
Mais tu sais, encore pire que ça, Maxime, ce qui se passe aussi, c'est que souvent, puis il y a une quantité surprenante d'entraîneurs, puis j'ai travaillé avec ça, je suis coupable de ça. Là. J'ai travaillé avec ça dans le passé, qui vont vraiment, vraiment se baser sur cette idée-là que le corps est un origami. Concrètement, là. Genre que tu es exactement l'opposé l'un de l'autre. Si je pousse, c'est le même contraire que tirer. Tu sais, il y a bien du monde qui vont établir des ratios, des ratios de force, puis qui vont carrément baser les stratégies d'intervention là-dessus. À savoir, c'est quoi les priorités en termes d'entraînement, en termes de capacité. À... Plus souvent qu'autrement, c'est justement dans une espèce d'idée d'équilibre structurel ou de bâtir. Ben, en fait, c'est la même, c'est la continuité. Là. C'est l'idée que tu vas être plus équilibré, fait que tu vas avoir une meilleure capacité à générer de la force. Mais tu sais, ces ratios-là sont basés sur un calcul qui est. Je ne sais pas s'il est faussé, mais il n'est définitivement pas bench press sur shoulder press ou bench press sur squat. Là. Tu sais, c'est définitivement pas simple de même. Puis il y en a que ça guide leur pratique, là, carrément. Tu sais.
Ouais, mais tu sais, les seules données que j'ai vues de ratio comme ça, qui semblaient un peu basées sur un peu de science, c'est un ratio ischio-jambier quad. Ouais. Puis que c'était. La plupart des papiers moi, que j'ai vus là-dessus, c'est. Ils testaient, par exemple, la force du quad, la force des ischios. C'est un mouvement de leg extension puis un mouvement de leg curl. Okay? Puis on regardait les ratios de force. Puis là, ils faisaient des associations avec les blessures au niveau du genou.
Ouais.
Fait que là, ils remarquaient que ben, chez un athlète, le ratio, c'était à peu près 80% qu'on souhaitait au niveau quad versus ischio. Monsieur, même tout le monde, c'était de mémoire là, entre 0.25 et 0.5, entre 25 et 50% de ratio. Puis là, tu regardes, tu dis, OK, mais c'est... Eux autres, ils regardent l'association, là, le ratio de force entre les deux groupes musculaires puis l'incidence de blessure. OK. Mais ça, qu'est-ce que ça mesure? Dans le fond, c'est qu'ils cherchent à mesurer une certaine stabilité au niveau du genou.
Ouais, c'est ça.
Fait que, tu sais, ben, monsieur et madame tout le monde ont besoin d'une moins grande stabilité au niveau du genou. Il y a un moins grand risque de blessure parce que ben, ils font face à des surcharges moins importantes au niveau du genou. L'athlète, ben, il a besoin d'une gestion un peu serré au niveau de l'articulation du genou, mais tu sais, le ratio, tu sais, 0.8, pourquoi pas 0.85, pourquoi pas à 0.75,
Mais tu sais, c'est ça, le point étant, ces ratios-là sortent un peu du cul de quelqu'un, là. Dans le sens que, tu sais, c'est on met ton back squat sur ton dead, puis il faut que ça ressemble à ça, tu sais, c'est un peu ça le problème, puis, tu sais, moi, je m'en sers un peu, potentiellement, mais tu sais, c'est vraiment, vraiment quand la personne a un gros, quand l'écart est vraiment drastiquement inquiétant. T'sais, genre quelqu'un qui a vraiment, vraiment... Moi, ça, c'est purement de la bro science, là, 100%. Là, c'est mon expérience, ma vision très limitée des choses. Là. Mais j'argumenterais qu'il y a certains livres qui ont tendance à plus se transférer un à l'autre. De ma manière à moi, mais je serais hautement ouvert à ça. Mais si tu as un bench de 3 plates et tu benches 4, tu shoulder press 95, on s'entend qu'il y a un gros problème. Là, t'es capable de loader une machine à leg extension, puis que t'arrives sur un hack squat, sur un leg press, sur un squat, peu importe ce qui se passe, puis t'as des charges de filles de 14 ans, il se passe de quoi, là? C'est peut-être pas le ratio, mais c'est peut-être juste ta capacité de forcer, c'est peut-être au niveau technique, c'est peut-être
c'est ça, je pense qu'il y a une analyse à faire, de voir, est-ce qu'il y a une bonne compréhension du mouvement, tu sais, est-ce que l'engagement moteur est approprié, puis, etc., parce que, tu sais, je regarde, je fais un parallèle, tu sais, on... Mais je le sais.
Arrête de les annoncer. Le monde le savent. Le monde le savent. Merci de faire un parallèle à
maintenant. On va passer un petit.
ça nous parle des commentaires. Mettons.
Ouais, non, mais c'est ça, tu regardes, mettons, les muscles abdominaux. T'sais, on dit que tu as des problèmes de dos. C'est un déséquilibre. Tes abdos sont faibles.
Ouais.
Puis c'est ça qui crée une instabilité. Là, tu ne peux pas faire de stabilisation médiale. Puis tu as des problèmes de dos à cause de ça.
Fun fact, le dos qui a sorti ce papier-là, là, c'était sur le transverse. Là. À ma donné, c'était l'idée que le transverse abdominal était une faiblesse du transverse abdominal était associée à un plus haut risque de lombalgie. Puis là, sans ouvrir la boîte de Pandore, il y a plusieurs types de lombalgie. Là. Fait que je ne me rappelle plus c'était quel type. Là. Mais le dude qui a écrit ce papier-là originellement est obligé de le retirer. Parce que le monde a juste trop mal compris. Genre, il a juste fait all right, fuck that. Mais excuse-moi, qu'est-ce que tu allais dire sur ça?
Ben, c'est ça, c'est que tu regardes, il y a des études qui ont été faites sur justement. L'engagement, le pourcentage de la force max des muscles abdominaux lors de différents mouvements sportifs. Puis quand tu regardes, ça ne monte pas beaucoup. Tu sais, c'est rare. Tu n'arrives pas à 100%. Fait que le monde dit, je vais renforcer mes abdos. Ce n'est pas un manque de force. C'est ta capacité à engager tes abdos, ta capacité à maintenir une stabilisation médiale, donc à maintenir un alignement. Bien souvent, les gens, là, moi, j'ai fait des tests avec des étudiants, bien souvent, ce n'est pas une question de force des abdos. C'est une question de j'ai aucune idée comment aligner mon tronc. Fait qu'il se place tout croche et ça donne l'impression que les abdos sont faibles, mais c'est presque un choix. C'est presque volontaire, cette position-là. C'est la position qu'ils prennent parce qu'ils n'ont jamais appris à prendre la bonne posture, tu sais.
Mais on se base aussi sur genre mes abdos sont faibles parce que je ne vois pas mes abdos, genre. Ben, tu vois, c'est ça le lien. On va loin un peu, les boys.
Ça aussi. Mais tu sais, dans le quotidien, là, tu vas chercher peut-être 10, 15, 20% de la force max de tes abdos. Là. Puis ça, c'est un job quand même un peu, travail un petit peu physique. Là. Tu sais, écoute, si tes abdos trop faibles, calvaire, tu sais, c'est quoi, t'es à la station spatiale? Là, tu sais, ça, c'est pas ça. Là, tu sais. Fait que c'est plus une question de ta compréhension du mouvement, ton engagement moteur. Puis moi, de ce que je vois, c'est que c'est beaucoup ça. C'est la même chose avec. Ça va dans la même lignée que les déséquilibres. On se dit, on a travaillé les abdos, on va travailler les acteurs du rachis aussi parce qu'ils sont faibles. C'est super rare que les muscles du dos sont faibles. C'est des muscles qui sont... C'est des brutes, ces muscles-là, tu sais. Fait que c'est toute cette mauvaise conception-là, cette logique mathématique qu'on applique qui vient à, justement, ça permet de faire différents programmes d'entraînement. Là, moi, j'ai vu des programmes asymétriques, là, tu sais, écoute, c'est marketing. Tu dis, moi j'ai un nouveau type d'entraînement, c'est l'entraînement asymétrique, permettre de modifier ta posture, etc.
Cool. Hey, je lisais sur ça tantôt, super slow training dans les années 80. Tu te rappelles-tu de ça?
Ben
ouais. Ouais, je suis retombé là-dessus, j'avais oublié ça. J'étais en train de lire des articles, puis je suis comme retombé ça. Ah ouais, fuck, c'est vrai, ça a déjà existé. Parce que, tu sais, fun fact, le monde, c'est en train de rebrander beaucoup le temps sous tension. En fait, moi, je blâme Jake. Là. C'est Jake qui en parle tout le temps. Là. Mais tu sais quoi, top trading, ils sont souvent en train de parler de... pas juste eux autres, là! Mais tu sais, les entraîneurs sont beaucoup en train de parler de temps sous tension puis de bien des affaires de même. Puis, tu sais, on a l'impression que c'est nouveau, que ça flash, puis que c'est ici. Mais tu sais, t'es comme... Ouais. On parlait de ça dans les années 80, mon homme. Là. C'est comme ça. C'est un bout, là, ouais.
La problématique de toutes ces affaires-là, sur le temps sous tension, exemple, là, en entraînement... À la base, là, ce que ça fait, c'est que ça augmente la perception de la difficulté. Ça rend ça, perçois que c'est plus dur, c'est plus souffrant. Mais si tu regardes une couple de papiers qui sont sortis là, sur le super slow training, tu n'as pas plus, sinon moins de gains que lorsque le tempo n'est pas contrôlé. T'sais.
Mais tu avais un truc sur le lactate aussi. T'avais le truc pourrait potentiellement augmenter le lactate, mais la question c'est ça va-tu générer en plus de gains? Mais...
C'est qu'est-ce qui arrive, c'est quand tu fais ça, un temps sous tension lent, tu limites la circulation sanguine à cause de la compression musculaire. Ce qui va arriver, tu crées un genre d'ischémie locale. Puis ça, on dit on fait un lien, c'est un précurseur de l'hypertrophie, ça. Ouais, mais si tu as du super slow, ta charge est à combien? Elle est pas mal plus légère. Fait que les autres composantes, les autres voies qui mènent à l'hypertrophie sont pas mal moins sollicitées. L'autre discuté, c'est justement parce que tu causes une ischémie, tu entraînes une fatigue métabolique super importante qui fait que tu as une réduction très importante du volume d'entraînement. Ouais. Le super slow training, ça marche chez des gens qui ne sont pas capables d'évaluer correctement leur charge.
Ce qui est la majorité.
Les gens qui ne prennent pas assez pesant.
Ça va vouloir être négatif, comment? C'est la majorité des gens, ça.
Ben c'est ça, tu sais, quand tu ne prends pas la bonne charge, de faire du super slow, ben là, ça rend ça pas mal plus tough. Mais si tu avais la bonne charge, puis tu faisais une série traditionnelle, ben, probablement que tu aurais plus de résultats parce que, ben, au pire, tu as juste des gains de force, puis au mieux, tu as des gains de force puis des gains de masse musculaire.
Ouais, c'est ça.
Fait que, tu sais, c'est ça.
Tu travailles dans un range de combien, toi, pour le fun? En termes d'exercice, là, mettons, pour l'hypertrophie, là, tu vises quoi?
Entre 1 et 30.
Ben, ça, c'est rep ou c'est...
Rep.
OK. Mais t'as pas un minimum que tu essaies d'aller chercher, genre?
Non. Ça dépend de la phase, là, mais tu sais, moi, je vois pas l'hypertrophie comme tu peux pas faire l'hypertrophie. Je considère que tu peux pas faire l'hypertrophie tout seul. Tu sais, il faut que tu prépares ta phase d'hypertrophie, puis il faut que tu détermines ça va être quoi les facteurs limitants pour la phase d'hypertrophie. Tu sais, j'ai du monde que pour les préparer en hypertrophie, on va faire de la grosse force, là, du RM excessivement bas, puis après ça, on va migrer vers des répétitions un petit peu plus hautes. J'en ai d'autres, on va faire de l'endurance musculaire locale, on va faire des high reps avant. Puis après ça, on va passer vers une phase plus en hypertrophie avec des répétitions un peu plus basses. Mais tu sais, ces fonctions, c'est quoi le facteur limitant? Tu sais, je vais faire des tests, par exemple, pour déterminer la quantité de tension que le muscle est capable de générer. Puis ça, ben, je commence à avoir pas mal de données. Fait que je peux voir ben, par kilogramme, par centimètre carré de surface musculaire, tu génères tant de tension. C'est vraiment poche comparé à mon groupe. Ça veut dire que pour la viande que tu as, tu recrutes mal. Donc, ce qui serait plus bénéfique, c'est d'augmenter ta force, puis après ça, faire une phase d'hypertrophie. À l'inverse, si tu pètes des scores, ça veut dire que tu recrutes ton muscle super bien, donc les gains en force vont être limités. Fait qu'on peut passer tout de suite pour augmenter la masse musculaire à l'hypertrophie, mais ça, c'est conditionnel à est-ce que tu es capable de soutenir un volume d'entraînement adéquat. Fait que ça se peut que je fasse faire un bloc d'endurance musculaire locale pour être en mesure, pour que la personne soit en mesure de soutenir plus de séries, un plus gros volume. Mm-hmm. Fait que tu sais, moi je vois jamais l'hypertrophie comme tout seul. C'est toujours pairé avec quelque chose en fonction de la limite de la personne. C'est une limite de force, c'est une limite d'endurance musculaire. Puis c'est fou comment c'est très polarisé. J'ai vraiment deux types d'individus. Là. Des gens là, que c'est clair, par kilogramme de muscle, ça ne génère pas de tension. Fait qu'il faut que tu augmentes la force. Puis d'autres personnes qui sont pas capables de soutenir un volume parce que ce soit des composantes psychologiques ou physiologiques. Et tu leur demandes de faire 6 séries avec la bonne charge, les bons temps de repos. Écoute, ils ne sont pas capables. Fait que si tu veux augmenter le volume, qu'est-ce que tu fais? Ben là, on fait un bloc d'endurance musculaire locale. Puis après ça, on revient à l'hypertrophie. T'sais.
Ouais. Ben, tu sais, moi, j'argumenterais que c'est ça, tu sais, une périodisation. Mais là, on s'éloigne un peu de notre sujet de base. Là, fait qu'on essaie peut-être d'y revenir à un moment donné, là. Mais tu sais, moi, j'argumenterais que c'est ça. Tu sais, la majorité des gens, il faut que tu aies périodisé sur un peu l'année. Puis tu sais, même si ta personne a un bon niveau de force, mettons. Puis que là, elle tomberait théoriquement sur une phase directe d'hypertrophie ou peu importe comment tu appelles ça, ben potentiellement qu'elle ne peut pas rester sur des phases d'hypertrophie non-stop. Ouais. Le plaisir va diminuer assez vite. Là. Fait que tu sais, plus ou moins, si tu vas arriver avec à faire des phases plus axées, je sais que tu ne tripes pas là-dessus, là, mais tu sais, moi, je travaille gros avec des phases de mind-muscle, concrètement, qui sont des. Pour moi, c'est une phase de technique. Là. Juste que c'est moins sexy de dire on va faire une phase de mind-muscle. Fait que c'est une phase de mind-muscle, ça passe pas mal mieux. Puis là, tu es juste axé sur ça. Puis en même temps, l'idée de ça, c'est. Contracter, de rentrer du travail, de faire ça, puis après ça, on le transfère à un bloc de force. Fait que, moi, je te dirais, la majorité des gens sont périodisés sur cette espèce de spectrum-là, là aussi. Là, là c'est qu'est-ce qui est plus prioritaire pour toi dans le moment actuel. Là. C'est là que ça varie beaucoup plus
longtemps. Ben, c'est ça. C'est qu'est-ce qui t'empêche de gagner du muscle. C'est là-dessus que tu veux travailler. Okay. C'est clair. La difficulté, c'est de déterminer ce facteur limitant-là. Testes pas, comment tu sais pour savoir que c'est ce facteur limitant-là?
Puis tu sais, c'est là que je vais réussir à faire un lien pour ramener la conversation parce que je suis un bon note. Mais tu sais, c'est là que le problème vient. En fait, c'est cette idée-là qu'il se passe une étape dans laquelle, pour ramener les ratios de force, entre autres, le monde va faire genre, ah ben là, il faut que tu montes ton ratio de force pour augmenter ta production de force. Genre, tu vas être plus équilibré, tu vas être plus fort. Tu sais, on a cette vision-là que travailler sur le ratio va te permettre un portrait global qui va être plus élevé. Fait que c'est, mettons, all right, moi, je suis down, je suis plus élevé à ça. Je suis ouvert à ça. Mettons, on prend ça pour acquis, OK? Fait qu'on prend cette idée-là, sauf qu'il se passe une étape où est-ce qu'une des règles en entraînement, c'est l'idée, c'est que les adaptations sont spécifiques, right? Ça, c'est assez basé, là. C'est assez clair, puis pas mal tout le monde va s'entendre là-dessus. Fait que, tu sais, moi, il va falloir que tu te lèves de bonne heure en crise pour réussir à me convaincre que de faire plus de quad va augmenter mon potentiel de fessier à cause que je vais rétablir un ratio sans mettre de tension sur le muscle visé que j'essaie de développer, tu sais. Mais c'est ça le problème quand tu te bases quelque chose de religieux comme un ratio de force. C'est comme le ratio est la priorité plus que l'objectif de la personne. T'sais. Dans un contexte de bodybuilding, ça ne fait pas beaucoup de sens. Ou même pas de bodybuilding, là, mais on utilise souvent le terme bodybuilding, puis ça fait peut-être un peu plus peur au monde. Là. Mais dans un contexte vraiment de développer ou d'améliorer ton physique, là, pas nécessairement de monter sur un stage, ça ne fait pas beaucoup de sens parce que tu as une lunette, c'est d'améliorer ton physique, right?
Exact.
C'est là, moi, que j'ai un bug avec
ça. Pour y arriver, tu sais, mettons, je prends l'exemple de ton quad. Tu sais, si le quad, c'est le facteur limitant dans l'augmentation de ta charge sur le squat, ben, si tu veux continuer à développer tes fessiers, puis tu ne veux pas augmenter ta charge parce que c'est le quad qui lâche, ben, il va falloir que tu corriges ça. Mais c'est rare. Tu sais, moi, de ce que je vois, c'est rare que tu es capable aisément d'identifier que ah, c'est à cause du quad là, que ça lâche.
Oui.
C'est souvent des évaluations très subjectives. On va observer le mouvement. C'est juste un exemple de voir par où la personne va initier son squat. Est-ce qu'elle va l'initier à partir des hanches, à partir du genou ou à partir de la cheville? C'est super tough visuellement à voir ça. T'sais, puis t'en vois des fois dans le gym et regarde ça. Ah oui, là, tu l'as starté par les fesses ou ah, là, tu l'as starté par le genou. Attends, là, prends le temps de t'arrêter à côté parce que ça peut être subtil comme mouvement. C'est ça, ça peut te donner de l'information justement sur l'intégration motrice du mouvement là, de la part de la personne. Et de là à dire que ah ben là, le facteur limitant, c'était quad, c'est plus souvent une question d'engagement que de force.
Ben, c'est une question de position aussi. Hein. Tu sais, as bien du monde pour ramener dans l'argument. Hein. Bien du monde vont penser qu'à cause que tu échoues, tu peux le décomposer très sommairement, ton squat avec ça, c'est un peu plus dominant au genou, ça, c'est un peu, à partir de telle phase dans le mouvement. Il se passe une étape où est-ce que si tu arrives à un moment, ton genou est principalement déplié, puis tu as juste à ramener tes hanches sur le top de ton squat, ben là, je veux dire, ça, c'est une extension de la hanche. Somme toute, tu peux y aller comme ça, puis te dire, all right, là, théoriquement, à ce niveau-là, tu aurais un problème de fessier ou tu aurais quoi que ce soit. Mais tu sais, comment tu assumes que c'est pas juste une perte de position? Parce que tu as un lift qui est quand même hautement technique, là. Fait que tu sais, juste ça vient de foutre la merde dans l'équation. T'as bien du monde, tu fais « Ah, t'es faible ». Si on assume que la perte de position, la perte de force, est automatiquement liée au muscle.
C'est ça.
Peut-être que t'as choqué mentalement, là, puis on dirait de le blâmer sur tes hanches.
Si ça fait pas de dommage, ça fait juste que tu vas donner des exercices différents à personne, puis on va travailler différemment, puis ça garde motivé, puis etc. Ben tant mieux, tu sais. Sauf que des fois, ça peut te faire dévier de l'objectif principal, de chercher à rééquilibrer à tout prix.
Ouais.
Ben, des fois, ça peut faire en sorte que ben, tu soutiens un volume d'entraînement moins important. Fait qu'il peut avoir des conséquences à ces choix-là qui peuvent justement ralentir la progression.
Mais tu sais, ça, c'est vraiment bon parce qu'on prend pour qui on fait tel workout, tu corriges ton ratio de force, tu as plus de gains. C'est comme n'importe quel workout devrait t'amener des gains. C'est pas ça la question. Là. La question, c'est est-ce que si tu aurais fait autre chose, est-ce que là, tu aurais eu plus de gains? T'sais? C'est ça que tu avant voir je l'ai fait puis ça a marché, mais t'es comme j'espère que tu t'entraînes, mon homme. J'espère que ça donne de quoi.
Si tu avais continué à faire la même affaire qu'avant, t'aurais-tu eu la même chose? Mm-hmm. Là, tu as peut-être changé 40 sous pour une pièce. T'sais, on va dire, on a travaillé différemment, on a modifié tes ratios, etc. Si on n'avait rien fait, on avait continué comme avant, est-ce qu'on aurait obtenu la même chose? T'sais, si la réponse est oui, ben, tu n'as pas perdu de temps, mais arrête de dire que tu as fait une grosse découverte et que le fait de corriger telle affaire, ça règle tous les problèmes parce que c'était plus le fait de pousser de la fonte. Peu importe comment. Moi, je ne suis définitivement pas un fan de la technique. Je trouve que je mets ça dans la même lignée justement que de l'équilibration des sets. Là, pour, moi, ça...
Qu'est-ce que tu veux dire, la technique?
Ben, je trouve que c'est très, très, très overrated. On va passer.
Mais quoi? Beaucoup... De quoi tu parles exactement? Là?
Mais la bonne exécution du mouvement, engagement moteur. Il y en a beaucoup qui vont arriver et ils vont mettre ça comme étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, il faut absolument que ton contrôle moteur et ton intégration motrice soient parfaites si tu veux progresser. Mais si tu regardes les gens qui s'entraînent et qui ont des gains, là, qui progressent, ils ont plein de techniques différentes. Ils font plein de mouvements différemment, pas exactement pareil, puis ils progressent pareil. Fait que tu sais, je ne dis pas que la technique, c'est pas important. Juste qu'on met beaucoup d'emphase sur la technique, sur équilibrer les affaires, comme étant des pivots pour le progrès, alors que tu te rends compte que tu prends l'ensemble des gens qui ont progressé, là, ils ont toutes des techniques différentes, ils ont tous des ratios différents avant-arrière, ils progressent pareil. Fait que si c'était si important que ça, la technique, si c'était si important que ça de balancer les affaires, tous ces gens-là, il y en a une gang qui n'aurait pas de gain.
Ouais, mais là, juste être sûr, parce que je ne suis pas sûr de comprendre, toi, tu parles de la technique d'équilibrer le corps comme étant une méthode là, d'intervention.
Ben, je parle pas la technique d'exécution de mouvement.
OK, ouais.
Puis, avec ça, l'équilibrer avec le nombre de sets. Tu sais, parce que si tu regardes en conditionnement physique général, écoute, tu peux pas donner. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé ces plateaux d'entraînement, là, c'était comme.
Il y a 25
ans. Des années 50. Tu peux pas donner plus de
6. 25 ans pour vrai, par exemple. Hein. Ça fait longtemps que tu as commencé.
95.
Ouais, c'est ça.
Shit. Ouais.
Ça fait quoi? T'sais, ça fait 20 ans? Ça fait 20 ans en 2015?
Ouais.
Fuck, ça fait 25 ans pour vrai, mais la joke était correcte. C'était pas une joke. C'était approprié. C'était voulu être un insulte, puis finalement, ça s'est fait un fait honorable.
Ouais. Ouais, mais tu sais, nous autres, on se faisait ramasser par notre boss parce qu'on avait donné deux exercices de dos puis un exercice de chest, tu sais. C'est comme, on était des malades, là. C'était sur le bord d'avoir un avertissement écrit puis se faire mettre dehors. La réalité, c'est quand même pas sûr que c'était si mauvais que ça, là, tu sais. Ouais. Biomécaniquement parlant, là, c'est un autre game. Fait que je pense qu'on met beaucoup d'emphase là-dedans. Une des raisons, je crois, pour ça, c'est l'entraînement personnel. Parce que ces affaires-là, c'est des interventions que tu peux faire. C'est du concret, c'est du tangible. Ça fait en sorte aussi que tu as l'air intelligent. Fait que, c'est des affaires qui sont... C'est le fun pour un entraîneur d'intervenir là-dedans. Tu sais, écoute, de corriger la technique de quelqu'un, c'est super le fun. Tu peux passer une séance au complet, cha-ching, à corriger quelqu'un sur son squat. Wow! Mais la question finale, c'est, ça va-tu y servir? Tu sais, il va-tu progresser plus parce que tu as donné autant plus de techniques? Tu sais, puis c'est un continuum, là. C'est un continuum. Tu sais, si t'es vraiment moron moteur, c'est super dangereux. Tu as une technique qui est déficiente, qui est problématique. Après ça, là, tu as une technique minimalement correcte. Écoute, il y a un méga range où est-ce que tu peux progresser, là. Puis tu as la technique parfaite, pas sûr que ça te permet de progresser tant plus que ça, tu sais.
Ça va dépendre de ce que l'objectif, tu sais, moi, j'argumenterais, tu sais, dans le sens que si ton objectif, c'est d'améliorer un lift précis, il va falloir que tu le pratiques comme du monde. Fait que c'est ça, par définition, ça rentrait un peu dans la catégorie technique, right? Là.
Ouais, mais comme du monde, c'est quoi?
Ouais, non, mais je veux dire, tu sais, il faut que tu entraînes vraiment ton lift à lifter selon les paramètres. Puis faut que tu le pratiques beaucoup. Là. C'est ça, je veux dire.
Si tu as un lift, tu as des exigences techniques. C'est-à-dire que tu es jugé sur ta technique de lift, il faut que tu le fasses comme ça. C'est une autre histoire. Parce que là, c'est comme un cours de danse, c'est comme du patinage artistique. Là, ton triple axel, faut que tu le fasses de même. On s'en fout que ce soit biomécaniquement correct ou non. Les critères d'évaluation, c'est de même. Fait qu'en choix, on peut le faire de même. Fait que ça, c'est une chose. Mais tu sais, de dire, mettons, tu veux gagner en hypertrophie, tu veux gagner en force.
Ouais, c'est ça.
Tu as besoin d'un minimum de technique. Mais après ça, là, le edge, là, la recherche de la perfection technique, sous prétexte, entre autres, que tu vas éviter de te blesser, tu vas augmenter tant que ça ta charge après. Quand tu regardes, là, moi, j'en ai vu des gens qui ont beaucoup travaillé leur technique. Au final, il y en a pas mal qui levaient moins pesant sur leur squat. Puis ils disaient, ouais, mais là, j'ai la bonne technique. OK, c'est correct. Biomécaniquement, ça a l'air super cute. Mais la tension qui est appliquée sur le système est moindre qu'avant. Tu sais, fait que.
Ouais, mais c'est ça.
Alors, c'est ça comme tu veux, là. C'est ça. Fait que, tu sais, quand tu fais le calcul du travail réalisé lors de l'exercice, la personne a fait des joules de moins, là. Puis des fois, genre, tu as un 15-20% moins de joules. Là, il se dit, ben là, j'ai la bonne technique. Écoute, cool, mais je ne suis pas sûr que tu vas progresser tant que ça. Puis là, moi, on me dit tout le temps après, ouais, mais tu vas voir, là, c'est pour le futur. Tu vas pouvoir squatter toute ta vie de même, puis tu ne te blesseras pas. OK, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça parce que moi, je pense plus que ça va dépendre de ta progression, puis de ton volume, ta blessure, un petit peu plus que ta technique, parce qu'elle était minimalement correcte.
Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est clair, ça ramène définitivement à l'idée des ratios de force, là. Dans le sens que tu arrives à une étape où est-ce que potentiellement ça peut te donner un certain indicateur, mais le problème, c'est quand tu bases l'intervention là-dessus. Je suis 100% d'accord avec toi, il y a du monde qui overly focus trop sec. Mais tu sais, tu as du monde qui recherche ça, genre dans un gym. Là. Puis ça a attiré beaucoup de monde des sports de force. Genre. Tu as du monde qui recherche à bien lifter, est-ce que ça soit beau ou est-ce que ça soit parfait, qui sont vraiment perfectionnistes sur l'exécution du lift, genre. Puis, tu sais, ça vient whack un peu parce que là, ce monde-là vont chercher ça à faire un beau lift. En haltéro, particulièrement, là. En haltéro, c'est, je sais pas si c'est esthétique, mais tu sais, c'est hautement technique comme lift. Là. On n'est pas dans une game d'un back squat, là. C'est vraiment plus compliqué que ça. Tu as plein d'affaires à penser de qu'est-ce qui bouge, à quel moment, où est-ce que tu es. Tu es tout le temps, tu devrais tout le temps être en conscience à peu près de où est ta barre par rapport à toi. À toi, ça c'est très beau, seront à toi. Fait que tu sais, quand tu te places, il y a quand même une grosse notion de ça qui là, ça change un peu, je pense. Mais tu sais, somme toute, tu as raison, tu peux overly focuser sur bien des petits détails. Là. Ça serait majoring in the minor. Ta technique n'a pas besoin d'être parfaite, tu as besoin d'être good enough. Là,
ben, c'est ça. Tu sais, si on revient sur l'haltérophilie, l'objectif de la technique, c'est de, dans le fond, optimiser ton effort. Ouais. Ce que tu veux, c'est pour un minimum d'effort, lever la charge la plus élevée. Fait que là, c'est des principes de physique. Plus la barre est loin de toi, plus ça va te coûter cher pour la monter, etc., etc. Fait que ça, tu sais, c'est une technique qui vise à favoriser de soulever la charge la plus élevée sur un mouvement complexe. Fait que, après ça, écoute, quand tu t'en vas appliquer ça à un leg extension, tu sais, m'a montré comment faire un leg extension correctement avec la technique. Écoute, je suis pas convaincu. Que si tu regardes le range de différentes techniques que tu as sur un leg extension, là, pas convaincu que ça change grand-chose. T'sais, écoute, si on m'amène des données, on me présente des affaires, tant mieux, là, autre que des anecdotes, mais moi, je suis pas convaincu. Là, tu peux te permettre d'être un peu moron moteur sur un leg extension parce que c'est un exercice uniarticulaire, guidé, etc.
Est-ce qu'il y a l'intérêt d'en mettre aussi? Là? C'est comme à un moment donné, tu devrais pas juste être. Ben, ça dépend c'est quoi l'objectif encore là, mais tu devrais pas juste être en train de faire du gros back squat. Là. À un moment donné, tu sors des objectifs que. Puis c'est ça l'affaire, c'est que mécaniquement, ça va servir, pas mécaniquement, mais logistiquement, ça va servir différents objectifs aussi. Là. Dans le sens que aller à l'échec pur et net, un réel échec sur un squat, tu as intérêt à avoir des spots, mon homme. Si tu mets quand même une bonne charge, c'est quand même relativement dangereux. C'est logistiquement très, très contraignant. Ouais, c'est ça. Puis tu sais. Potentiellement que si tu es moindrement efficient, efficace, ça va péter le reste de ton workout. Là. Tu pourras plus faire grand chose d'autre après. Mais tu sais, aller à l'échec sur un leg extension, oui, tu devrais être fatigué, ça devrait être très difficile, mais ça ne te pètera pas que c'est en train de squatter 310. Là, ça ne te pètera pas autant que ça. Là.
C'est ça. Fait que c'est intéressant ces stratégies-là comme telles. T'sais, moi, si tu reviens après ça à dire ben là, on va faire 3 séries de leg extension, 3 séries de leg curl. Puis là, il y en a qui disent non, faut un ratio de 80%, fait qu'on va mettre un petit peu plus de leg. Écoute, moi, ces calculs-là mathématiques, si on les faisait vraiment, écoute, il faudrait calculer les moments de force, il faudrait calculer la tension interne du muscle, puis là, s'assurer que tel mouvement génère une tension équivalente pour un muscle opposé. Écoute, c'est hyper complexe, là, ça finit plus, là, si tu veux vraiment être sûr. Puis je trouve, moi, à discuter, en tout cas, j'ai discuté entre autres avec des physios, ça finit tout le temps où est-ce que, ben, finalement, on y va à peu près, puis, ben, le patient, il s'en sort mieux après. Tu sais, puis là, je suis là, je dis, ouais, mais vous essayez autre chose pour comparer. Puis tous les physios à qui j'ai parlé, ben, non, ils n'ont pas essayé autre chose. Ils appliquent ça. Ils observent que le patient, il progresse. Donc, ils se disent, ben, ça fonctionne. Ouais. Tu sais, moi, je dis, ben, si le patient était resté chez eux, puis il avait eu la même affaire.
Et tu sais, là, tu vas avoir un peu la notion de. Écoute, moi, je sais pas. Là. Moi, je parlais pas de physio puis de rehab puis de ça. Là. Je connais pas ça de maudite seconde. Là. Mais tu sais, mon point étant, genre, il se passe la même étape que quand t'es coach, je pense, là-dedans aussi. T'arrives à un moment où est-ce que t'es, genre. Moi, ultimement, que la personne prenne des oméga 3 puis qu'elle perde 20 livres, je sais, moi, que c'est pas à cause des oméga 3, tu sais. Mais si ça fait que sa personne est plus engagée, qu'elle est plus motivée, qu'elle est plus ci, qu'elle est plus ça. Mais tu sais, là, je pense qu'il y a peut-être des bénéfices à y avoir. Puis c'est peut-être ça l'idée, c'est genre, on fait cette intervention-là, la personne évolue là-dedans, pourquoi changer, tu sais?
Non, mais tu sais, dans ce point-là, c'est correct, mais c'est juste que, tu sais, faut arrêter de vendre ça comme une stratégie qui est valide, à moins qu'elle ait été validée, là, puis que je n'avais pas vu le mémo, tu sais. Puis tu sais, je pense que c'est aussi, on a une culture en entraînement qui est très régionale. Tu sais, ce que moi, je regarde, quand j'ai travaillé en France, j'ai travaillé au Maroc. Puis écoute, quand
tu travailles en France, c'est vrai que tu as travaillé en France.
Oui, il y a longtemps. Mais tu sais, c'est comme, comment dire, si tu regardes un programme qu'un entraîneur là, qui commence fait au Maroc, en France, puis ici, c'est pas la même affaire. C'est pas la même sélection d'exercices. C'est pas nécessairement le même nombre de séries, pas le même nombre de RM. Tu sais, il y a toute une sauce régionale qui est là. Puis là, tu te rends compte que, OK, ben les Français, ils font-tu tout croche? Sont-tu tout déséquilibrés? Sont-tu tout? Puis nous autres, on est-tu tout équilibrés et tout correct parce qu'on fait nos entraînements comme ça? Tu sais, il y a comme une culture. T'sais, moi, quand j'ai commencé, là, c'était des séries de 12 qu'on donnait. Tu donnais des séries de 12. Fait que moi, ben souvent, quelqu'un qui commence, je donne des séries de 12. Puis on me disait tout le temps, écoute, donne-lui pas des 6 reps et des 4 reps. C'est dangereux. Ben, Colin, je l'ai fait là, avec ce qu'on pourrait appeler, en guillemets, une petite madame. Écoute, j'ai donné du 4RM. Du 4RM. Aucune blessure, tout va bien. Mm-hmm. Alors, comment ça se fait? Pas un vrai 4RM. T'sais, elle arrête à 4 parce qu'elle se dit qu'elle n'est plus capable. Mais c'est vraiment 4 répétitions pour un 10 ou un 12 RM. T'sais, c'est, chose, c'était bien, ça aurait été bien plus dangereux de donner du 4 RM à un athlète qui sort d'une phase de transition qu'à cette dame-là parce qu'elle n'a pas, si on veut, la culture de l'effort comme tel.
Ouais. C'est toutes des choses. Mais juste plus low que son 8, déjà.
Ben, c'est ça, tu sais.
Mettre une plaque de plus, ça doit être correct.
On a tout comme un fallback, là, un mode par défaut qu'on va donner comme entraînement ou justement des ratios, nous dire, ah ben là, c'est important d'avoir tel ratio. Puis au final, c'est super rare, puis je m'inclus là-dedans, qu'on va aller valider si effectivement ça fait une différence. On reste avec notre pattern. On reste avec, moi, quand je donne du chest press, Colin, je donne du seated row tout le temps. Pourquoi? Tu sais, pourquoi tu ne fais pas chest press puis reverse fly? Ah non, il y a un déséquilibre, là. Écoute, biceps, triceps ne travaillent pas pareil là-dedans. Pis ouais, puis. Tu sais, quand est-ce que le triceps travaille pareil comme le biceps dans la vie de tous les jours?
Mais tu sais, c'est ça le problème, c'est le jump de genre, parce que ça fait du sens de même, ça doit créer. On se cache beaucoup derrière le risque de blessure, là, je pense, dans ces affaires-là. Mm-hmm. Tu sais, le risque de blessure, il est haut quand tu fais des exercices fucking tout croche, là. Tu sais, là, il est haut, là. Là, il est très, très élevé. Puis si tu ajoutes pas mal de charges là-dessus, c'est haut. Puis si tu as peut-être des antécédents et des problématiques médicales, tu sais, genre, tu sors d'une fucking chirurgie du genou, ouais, il y a des trucs à savoir, là. Mais tu sais, l'écrasante majorité du monde, je pense pas que c'est tant la sélection d'exercices ou la façon, mais c'est même pas la sélection d'exercices rendu là, c'est comment tu positionnes ces exercices-là. Je pense même pas que c'est tant ça qui est l'élément limitant dans pas grand-chose, honnêtement. Là.
Ben, tu sais, juste concernant les blessures, si tu regardes la salle d'entraînement, il y a plus de blessures. Les moments où il y a le plus de blessures, c'est quand les gens prennent des poids puis ils replacent des poids. C'est quasiment, je vais m'avancer, là, mais probablement dans le top 3 des causes de blessures dans une salle d'entraînement, sauf les poids que tu déchappes ses doigts ou ses pieds, tu sais.
Ouais, c'est ça. Ben,
c'est pas tant que ça, là, tu sais. Fait que la plupart du temps, sinon, c'est les blessures d'usure. Puis les blessures d'usure, c'est un mouvement répétitif qui peut, s'il est mal exécuté, s'aggraver, mais tu as des mouvements répétitifs super bien exécutés qui causent aussi des blessures. Tu as des coureurs de haut niveau qui ont des blessures d'usure malgré qu'ils ont une technique de course impeccable. Pourquoi ils courent trop? Je pense qu'on se cache derrière ça. On joue aussi un petit peu là-dessus, de dire ben, on va équilibrer les affaires justement pour que tu finisses tout crouché par en avant ou tout croche ou etc. Mais tu sais, honnêtement, dans la vie, le corps humain, là, il fait rien de symétrique ou à peu près. C'est quasiment toutes les tâches qu'on fait au quotidien, bien souvent, là, c'est asymétrique. T'sais.
Ouais, je suis d'accord.
Fait que, tu sais, comme je te disais, à la base, on a toute une dominance gaucher ou droitier.
Ouais, tu sais, il pourrait y avoir, je suis d'accord, le over-focus là-dessus est un problème. Tu sais, c'est plus lorsque ça va tomber à ta capacité de générer de la force gauche-droite est limitée, mettons. Fait que là, si ton objectif est une intention plus de physique, c'est là, on s'entend que là, ça fait pas beaucoup de sens. Right? C'est genre, si t'as un gros Christ de delte, ça serait fucking whack. T'as une grosse boule d'épaule, genre, puis le bord, t'as rien. Ben là, tu sais, là, c'est un peu plus tannant. Fait que, puis l'écrasante majorité des gens, c'est ça, d'entraînement, c'est l'objectif initial, tu sais. Fait que, je pense qu'à ce niveau-là, ça peut être intéressant, mais comme tu dis, il ne faut pas nécessairement baser sur la symétrie au nom de la symétrie.
Tu es dans un gym, là, ça fait longtemps. Là. Okay? Moi, ça? T'as vu combien de personnes à un moment donné avec un quad, genre méga plus gros que l'autre, ou avec une épaule méga plus grosse que l'autre? T'en as vu combien? 400, 500, 600 personnes?
Que j'ai vu de monde dans ma vie ou de monde déséquilibré?
De monde qui sont anatomiquement déséquilibrés.
Ouais, ben je te dirais souvent, on se base sur le physique de la personne. Fait que c'est comme, oui, j'en ai vu une couple. Je te dirais pas 300, ouais. 400, 500, mais il y en a là.
Ben, il y en a quelques-uns. T'as vu combien de monde en entraînement? Une couple de 1000?
Ouais, j'aimerais voir. Ouais, c'est bon,
pourcentage pas super élevé. Là.
Ouais. Mais il se passe de quoi? Il se passe de quoi à ce niveau-là? Ou est-ce qu'à force de progresser dans le monde de l'entraînement, tu finis par attirer une clientèle qui sont plus... En tout cas, moi, je finis par attirer une clientèle qui sont plus intermédiaires avancées. Tu sais, j'en dirais que j'ai moins de débutants plus que j'avance. Fait qu'on dirait que ça représente une plus grosse proportion. Mais là, c'est ma réalité à moi. Là. C'est comme pas celle de tout le monde. Là. Mais ça, c'est juste une petite parenthèse.
Ouais, mais tu feras l'inventaire de tes clients. Tu regarderas qui visuellement a un déséquilibre. Ou encore, tu regarderas, ben, c'est quoi l'écart droite-gauche au niveau de la force?
Ouais.
Tu sais, pour voir, tu sais, y en a-tu qu'ils font sur un dumbbell press 50 livres d'un bord, 25 de l'autre, tu sais, ou t'sais, c'est comme 50 puis 47,5, tu sais. Mais de voir c'est quoi, moi, je suis sûr que tout le monde est déséquilibré.
Ouais.
Mais je suis pas convaincu que c'est un déséquilibre qui mène à une problématique.
Non, non, ça, c'est clair que non.
Tu sais, c'est un déséquilibre qui vient de l'usage. Puis encore une fois, si on n'était pas fait pour faire du travail asymétrique, on serait ambidextre. T'sais, on pourrait utiliser là, de façon alternative la gauche, la droite sans difficulté. Mais il y a une fonction là, à avoir un côté dominant puis à l'utiliser un peu plus.
Ouais, c'est
bon. Fait que c'est ça. Fait que d'aller à l'encontre de ça puis de dire qu'il faut absolument être égal partout, je ne suis pas convaincu. T'sais. Quelqu'un qui va avoir un volume à outrance d'un côté, exemple un joueur de tennis, un joueur de baseball, à la longue, si tu ne rééquilibres pas un moindrement, ben, tu traverses avec une déviation qui est trop importante, entre autres au niveau de la colonne vertébrale. Là, ça peut devenir problématique. Mais tu sais, c'est du monde qui a un méga volume. Là. Tu sais, quand au baseball, là, tu lances 200 pitches là, dans une game, mettons. C'est 200 fois un mouvement qui mobilise un côté d'une façon, l'autre côté d'une autre. C'est quelque chose. Ça veut dire qu'après, si je veux équilibrer, il faut que j'aille faire 200 pitches de l'autre bord. Tu sais, ça ne fait aucun sens. Ah ouais. Là. Tu sais, moi, quand j'ai joué au baseball, là, écoute, on compilait le nombre de pitches, j'avais un quota de pitches, mais jamais je m'en allais dans le bullpen après puis lancer l'autre bord pour équilibrer les affaires.
Tu sais, c'est ça. Dans le quoi? Comment tu appelles ça?
Dans le bullpen.
Un bullpen. Ah, je sais pas c'est quoi.
Il n'y en a pas le bullpen.
Ouais.
OK.
Désolé. Je m'intéresse pas vraiment à ces sports-là. Pour être dans les tours. Je m'intéresse pas à beaucoup de sports.
Ouais, c'est pas ah ouais, ce qui se passe.
Comme le ou des PlayStation. Peu, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est pas mal ça que je fais. Je joue à Majora's Mask en ce moment. C'est vraiment, vraiment hot, pour vrai, sur Nintendo 64. Fait que je pense que ça fait pas mal de tour. On a-tu quoi que ce soit qu'on avait arraché là-dessus? Il y a tout le monde qui écoute, qui ont des questions pour nous.
Je vais arrêter ça là. Il y a-tu du monde qui écoute?
Il y a-tu du monde qui écoute? Oh, ouais, il y a du monde qui écoute. On les voit en live. Là. Salut tout le monde. On les voit. Non, il y a des gens connectés. Ça, c'est bien good. Mais on a un petit 30 secondes. Fait qu'on va juste closer ça tranquillement. Puis jamais on a une question qui se rajoute. On la prendra au fil et à mesure. All right. Fait que dans le fond, si on se fait un petit résumé de ce que je comprends, capotez pas trop avec les asymétries. Je pense que ça serait pas mal ça. Soyez tout le temps très nuancé sur quoi vous basez vos interventions. Je pense que c'est important de le voir beaucoup en quel est le facteur limitant, plus que de fitter dans une famille ou dans une catégorie précise. Tu sais. Mm-hmm. Je pense que c'est plus ça qui est important. Puis, t'as pas oublié de l'adapter aux objectifs de la personne non plus. Là. Dans le sens que, tu sais, si le fait de focusser puis de baser bien raide sur ton ratio de force, ça te fait perdre de vue que ta personne avait ajouté des deltas à son corps, ben, on s'en va peut-être pas dans la bonne direction. T'as-tu quoi que ce soit à rajouter là-dessus?
Ben, écoute, je suis omnibilé par ton esprit de synthèse.
Je suis bon, je suis fait pour ça. All right, ben, on n'a pas d'autres questions. Fait que c'est bien good. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là pour un nouvel épisode de Confrérie de métal. Rendez-vous à chaque semaine sur ma page Facebook, la page Facebook de Maxime. On fait puis sur YouTube. Il y a tout le temps encore, il y a la même personne. Un jour, je te trouverai. Il y a la même personne sur YouTube encore qui est là. Fait que,
ça, c'est comme dans Avenger, là, Noob, je ne sais plus trop quoi, là.
Ah, moi, je les vois, là, tu sais, genre, on a deux personnes sur Facebook live, une personne sur YouTube, mais le dude sur YouTube, il est tout le temps là. Envoie-moi donc un message sur Momentum HB, Facebook, Instagram, peu importe c'est qui, juste.
On veut savoir t'es qui.
Ouais, je veux savoir t'es qui, le dude sur YouTube. Fait que c'est bien good, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, on s'en parle la semaine prochaine. Ciao, bye.
Bye.